des femmes,
des hommes,
des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de l'Ain. Auditeurs, auditrices, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Arnaud Banos, sauveteur en mer auprès des migrants aux frontières maritimes de l'Europe.
Bonjour.
Arnaud, vous êtes un scientifique, géographe au CNRS, mais aussi vous êtes sauveteur en mer dans des endroits critiques. Parlez-moi peut-être déjà de votre première vie, puisque vous avez eu plusieurs vies et vous en avez maintenant beaucoup.
Alors oui, ma première vie, c'était une vie académique en tant que chercheur au CNRS. J'étais une vie internationale dans des grandes universités, des grands laboratoires étrangers en France. J'étais directeur d'unité à Paris les dernières années. Et puis un jour, j'ai décidé de devenir sauveteur en mer.
Alors, avant d'aborder le sauvetage en mer, en quoi consistaient vos recherches, vos investigations ?
Alors, à l'époque, moi, je travaillais beaucoup à la croisée entre les sciences sociales, les sciences de l'environnement et les modélisations informatiques, numériques, mathématiques. Et donc, je faisais de la modélisation. J'ai travaillé, par exemple, sur la simulation des flux de piétons, sur la simulation du trafic automobile, des épidémies, des tsunamis aussi. Voilà, des choses pour lesquelles on a besoin de modèles pour essayer de comprendre la complexité des phénomènes et puis pour anticiper un peu leurs évolutions.
Vous m'avez parlé des seuils critiques.
Alors les seuils critiques sur les mouvements de foule, c'est des seuils qui sont importants. À partir du moment où vous avez suffisamment de gens en interaction dans un espace qui est un espace fermé et limité, vous allez avoir des comportements de foule que vous ne pourrez pas expliquer simplement par les comportements individuels. Donc là, les individus, à partir de ce moment-là, se comportent comme une foule, ce qui a des conséquences évidemment en termes de sécurité, mais aussi en termes d'aménagement et puis de gestion de la foule.
Donc là, vous apportiez des réponses, vous donniez des clés donc, pour pouvoir améliorer ces situations. Et ces seuils critiques, vous les avez vus ailleurs ?
Oui, tout à fait. Je me suis rendu compte assez rapidement quand je suis devenu sauveteur en mer en Méditerranée. J'ai commencé par la mer Égée.
Pourquoi vous êtes devenu sauveteur en mer en Méditerranée ?
Alors ça, c'est une longue histoire, mais pour faire court, j'ai été confronté à la crise des réfugiés à partir de 2015, comme tous les Européens. Il m'a fallu pendant plusieurs années la naviguer avec cette idée que je pouvais pas faire grand-chose, même si c'était dramatique, jusqu'à ce que je découvre que l'option qui était prise par les pays européens, c'était finalement de laisser mourir les gens à la frontière, au prétexte qu'on n'était pas vraiment capable collectivement de gérer cette question migratoire. Ce qui est un débat qui est toujours en cours, hein, bien sûr. Et donc là, j'ai refusé cette idée et j'ai décidé de m'engager auprès des sauveteurs à mer en Méditerranée.
Comment avez-vous pu refuser cette idée en vous disant que vous pouviez avoir un impact sans être noyé donc, par l'immensité de la problématique ?
Alors, c'est arrivé en plusieurs temps. C'était un processus long et douloureux. Il a fallu que moi, je réussisse à sortir de ce que j'ai appelé plus tard mon triangle des Bermudes, c'est-à-dire pris entre moi-même, mon boulot, et puis qui était très prenant, et puis ma vie de famille. Et c'est mon épouse, Lucie, qui, un jour, voyant l'importance que ça prenait vraiment à mes yeux et la façon dont j'étais vraiment perturbé de plus en plus par tout ce qui se passait à nos frontières, m'a un jour dit « Arnaud, faut que tu agisses ».
Et comment ça s'est passé concrètement alors ?
Ben concrètement, tout d'un coup, je me suis autorisé à penser sauvetage en mer alors que j'étais jamais monté sur un bateau. J'avais aucune idée de ce que c'était. Je savais même pas comment devenir sauveteur en mer. J'ai commencé à chercher. Puis j'ai découvert qu'il y avait la SNSM en France, que c'était des bénévoles, que n'importe qui pouvait intégrer une station à condition de satisfaire certains critères qui étaient finalement pas si difficiles d'accès que ça. Bon, sauf qu'il fallait évidemment habiter près d'une station, donc on a fini par déménager au Havre depuis Paris. Et donc je me suis formé au sauvetage et puis j'ai fait ma première mission en 2019 en mer Égée.
Donc vous avez changé votre vie, vous avez changé de lieu, vous avez impliqué votre famille ?
Oui, dès le départ, à partir du moment où on a décidé de se lancer là-dedans avec Lucie, c'était vraiment un choix de couple. Avant ma première mission en mer Égée, j'ai emmené mon épouse et mes deux plus grandes filles à Lesbos, de façon à ce qu'elles voient la situation sur place, qu'elles voient le camp de réfugiés de Moria, qui était une abomination totale, qu'elles voient l'ONG avec laquelle j'espérais pouvoir travailler, qu'elles voient les lieux, le cimetière des brassières de Molivos, qui depuis a brûlé, qui était une décharge à ciel ouvert sur laquelle s'entassaient des dizaines de milliers de brassières qui avaient été laissées par tous les gens qui arrivaient sur des petits bateaux depuis 2015.
Alors, vous êtes arrivé à Lesbos avant. Est-ce que vous vous posez toujours des questions ? Est-ce que je dois y aller ? Est-ce que je ne dois pas ?
Alors non, à partir du moment où je me suis retrouvé sur l'eau à Lesbos, confronté à ma première embarcation de réfugiés venant de Turquie, toutes les incertitudes que j'avais, que je pouvais encore avoir, toutes les questions que je me posais sur le bien fondé de ma présence, etc., ont complètement disparu. Ce jour-là, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai agi, et depuis, je n'ai plus jamais été confronté à cette incertitude, à cette espèce d'absence de possibilité de me projeter sur qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Voilà, maintenant je sais toujours que je peux agir et que je dois agir, et c'est ce qui me motive. Voilà, c'est un véritable moteur.
Donc, alors vous partez en mission, vous revenez, mais vous êtes toujours présent donc dans votre action. Comment ça se passe?
Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, je ne fais plus qu'une seule mission avec les ONG par an. J'en ai fait jusqu'à deux par an, mais une mission, ça dure à peu près 5 semaines. Ce qui est important de savoir, c'est qu'une mission, c'est extrêmement impactant psychologiquement. Donc quand vous avez déjà fait une mission, un mois avant la prochaine mission, vous n'êtes pas bien du tout dans votre tête, hein, parce que tout ce que vous avez vécu avant remonte. Et un mois après une mission, vous n'êtes pas bien du tout, parce que c'est tout à fait normal, confronté à des événements aussi traumatisants, de ne pas être capable de dormir, par exemple, d'avoir des flashbacks, d'avoir la nausée, enfin d'être triste, dépressif. Donc tout ça, c'est normal. Voilà. Le problème, c'est au-delà d'un mois, si ça dure, ça veut dire que vous êtes soumis à un stress post-traumatique. Donc grosso modo, 2 missions par an, ça veut dire 6 mois de l'année où vous êtes vraiment pas bien. Donc maintenant, j'en fais plus qu'une par an. Donc ça me prend 3 mois où je dois négocier un petit peu avec mon état mental. Mais à côté de ça, je fais beaucoup d'autres choses. Donc je suis quasiment tout le temps, effectivement, aux frontières maritimes de l'Europe.
Et est-ce que ça ne veut pas dire aussi, vous parlez de stress post-traumatique, est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'il faut que vous soyez en équipe avec d'autres pour partager donc cette action, ces stress?
Alors tout à fait, la formation préventive au stress post-traumatique fait partie de la formation que je dispense maintenant pour à la fois les ONG, mais aussi pour les moyens de l'État qui sont déployés en Manche-Mer du Nord. Il y a beaucoup de choses à savoir sur la façon de se comporter individuellement et en tant que collectif dans des situations qui nous dépassent et qui sont extrêmement extrêmement difficiles à gérer psychologiquement. Et puis il y a aussi ce principe fondamental qui est que ce dont on parle, c'est quelque chose de très sérieux, le stress post-traumatique, qui doit absolument être pris en charge par des spécialistes, hein, qui sont des psychologues et des psychiatres, qui sont formés pour ça. Et donc, il faut absolument utiliser leurs services. Ce qu'on fait de façon permanente dans les ONG, on a toujours un suivi psy, mais ce qui se fait aujourd'hui aussi à la marine, et puis pour les moyens civils qui sont déployés là-haut via le CRAPEM.
Vous avez parlé de seuil critique dans votre première approche, quand vous avez parlé de votre métier. Est-ce que ça vous sert? Est-ce que dans votre pratique?
Oui, ça me sert complètement. Un des points essentiels lorsqu'on aborde une embarcation surchargée, aujourd'hui en Manche-Mer du Nord, à titre d'exemple, en moyenne on a 60 personnes par embarcation, on a des points jusqu'à 90. En Méditerranée centrale, il est tout à fait courant d'avoir des embarcations plusieurs centaines de personnes. Donc à partir de là, on est au niveau de cette densité critique, c'est-à-dire plus de 6 personnes par mètre carré, les gens sont entassés, donc chaque personne qui bouge va faire bouger des gens autour d'elle, va fragiliser l'embarcation. La question de la stabilité de l'embarcation est absolument cruciale, et un des principes fondamentaux du sauvetage, c'est de réussir à contrôler la foule, quel que soit le nombre de personnes et la situation de la foule à bord, de façon à pouvoir garantir la stabilité de l'embarcation. Ça, c'est vraiment un point fondamental pour que tout le monde soit en sécurité, y compris les sauveteurs.
Arnaud, on a parlé de différentes problématiques. Par exemple, vous m'avez parlé de la Manche et de la Méditerranée. Est-ce que ce sont les mêmes?
Alors, ce sont à la fois les mêmes et elles sont très différentes. La Méditerranée, c'est une vaste zone, très largement composée d'eau internationale, alors avec différentes zones SAR, ce qu'on appelle les zones de responsabilité de sauvetage, qui appartiennent aux États côtiers. Donc, on a évidemment la zone SAR italienne, mais aussi la zone SAR maltaise et la zone SAR libyenne. Et donc, lorsqu'on travaille en Méditerranée, on est un petit peu dans un espace de dilution des responsabilités, où le contournement des lois internationales, quasiment un sport collectif, et les ONG évidemment sont les seuls à essayer de respecter les conventions maritimes, mais aussi les conventions des droits de l'homme en Méditerranée.
Qui sont?
Et alors les conventions maritimes qui visent toutes à la même conclusion, qui est que lorsqu'un vous êtes confronté en mer à une détresse, vous avez obligation de porter assistance, sauf si pour cela vous devez mettre en danger votre propre bâtiment, mais sinon c'est vraiment une obligation. Ça c'est le premier point. Et puis la convention de des droits de l'homme et du réfugié de 1951, elle stipule que lorsque vous êtes confronté à des gens qui fuient un pays, vous n'avez pas le droit de les empêcher de traverser sur l'eau, vous devez les secourir, vous devez les amener à un port sûr, et là vous devez analyser les raisons de leur départ, et ensuite mettre en application toutes les lois qui existent, notamment sur le traitement du droit d'asile. Voilà.
Et est-ce que vous n'êtes pas confronté à des volontés contraires des États par rapport à ces conventions ?
Alors si, complètement, tout est fait aux frontières maritimes de l'Europe du Sud, hein, notamment en Méditerranée centrale, pour ne pas avoir à satisfaire ces deux obligations. Donc pour ça, l'Europe a mis en place un processus d'externalisation des frontières qui consiste à négocier et à financer des États tels que la Turquie, la Libye, pour empêcher les gens de partir. Y compris en finançant et en équipant les gardes-côtes libyens avec des bateaux qui leur permettent sur l'eau de refouler la plupart des embarcations. 80 des embarcations aujourd'hui qui partent de la Libye sont refoulées par les gardes-côtes libyens. Donc c'est une façon de s'affranchir un peu de ce principe de non-refoulement en faisant en sorte que ce soit les Libyens qui le fassent et non pas nous. Et puis ensuite, on se rend compte aussi qu'en Méditerranée centrale, les MRCC, c'est-à-dire que les institutions qui ont pour vocation de gérer et de réguler le sauvetage en mer, donc ça fait partie des obligations légales, hein, convention SOLAS, ne répondent pas à des appels de détresse. Par exemple, Malte ne répond jamais et n'envoie jamais de bateaux de sauvetage. L'Italie ne répond pas lorsqu'on est dans les eaux internationales, alors que la loi dit que, très clairement, si personne ne peut opérer le sauvetage, voilà, il faut que ce soit l'Italie qui s'en charge. Et donc c'est toujours un jeu compliqué pour essayer de faire en sorte que les États satisfassent à leurs obligations.
Donc vous êtes toujours dans un jeu du chat et de la souris avec les États, alors que vous êtes dans les droits de l'homme.
Absolument, et pas seulement les États, aussi avec des bateaux de la marine marchande. Ça m'est déjà arrivé sur des missions de forcer la main à des capitaines de gros porte-containers de plus de 300 mètres de long pour les obliger à faire machine arrière et à retrouver une embarcation en détresse à côté de laquelle ils étaient passés et pour laquelle ils ne s'étaient pas arrêtés. Et donc à obliger le capitaine en le menaçant via les conventions internationales, à l'obliger à retrouver l'embarcation donc, et puis à prendre à son bord les personnes en détresse jusqu'à ce que nous on arrive et que je grimpe à bord pour prendre en charge ces personnes-là. Donc il y a vraiment cette idée aussi que les ONG, c'est la société civile, et donc on est là pour faire du sauvetage, mais on est là aussi pour observer, pour documenter et puis pour dénoncer toutes les violations.
Vous êtes des sentinelles ?
Oui, il y a vraiment ce rôle de sentinelle. Alors, ce qui fait aussi effectivement qu'on n'est pas les bienvenus aux frontières maritimes de l'Union européenne, qui par définition sont des endroits où l'objectif est d'invisibiliser les processus de façon à ce que personne ne sache réellement ce qui se passe.
Oui, Arnaud, donc là, on a parlé de la Méditerranée. La Manche est peut-être plus facile à gérer.
Alors tout à fait, dans la mesure où la Manche c'est quand même beaucoup plus petit, on n'est pas dans les eaux internationales, on est vraiment entre la France et l'Angleterre. Donc on a beaucoup de départs, c'est 45 000 personnes qui ont traversé ou cherché à traverser en 2022, 35 000 l'an dernier. Alors on a 6 moyens de l'État maintenant qui sont déployés en permanence pour faire du sauvetage. La doctrine étatique est claire jusqu'ici, c'est-à-dire qu'on empêche les gens de traverser tant qu'ils sont sur la plage. À partir du moment où ils sont sur l'eau, c'est le sauvetage en mer qui prime, leur sécurité. Et donc les moyens d'État sont déployés pour assurer leur sécurité et procéder à des sauvetages. Et donc moi je suis le formateur pour tous les moyens d'État qui sont déployés là-haut, donc les moyens de la marine nationale, les gardes-côtes de la douane, les affaires maritimes, et puis également les moyens affrétés civils, puisqu'on a plusieurs bateaux civils qui travaillent là-haut.
Donc vaut mieux être un migrant dans la Manche qu'un migrant en Méditerranée ?
Ah, très clairement. Alors déjà, c'est beaucoup plus petit à traverser. Et puis, il y a effectivement beaucoup, beaucoup de bateaux qui sont là pour assurer un peu la sauvegarde de la vie humaine. Pour autant, la Manche, on n'en a pas forcément conscience, mais c'est un milieu qui est particulièrement hostile. Il y a à peu près deux tiers des jours de l'année qui sont considérés comme non navigables en théorie pour ces petites embarcations, avec des vagues de plus d'un mètre cinquante et des courants qui sont extrêmement forts. Hein. Le marnage en Manche, c'est plusieurs mètres. Si vous prenez le Havre, ça va jusqu'à 7 mètres, la différence entre les basses eaux et les hautes eaux. Donc ça veut dire que c'est des masses d'eau en mouvement qui sont absolument colossales. C'est des vents qui sont extrêmement puissants. Et puis c'est l'un des détroits les plus fréquentés au monde, avec entre 400 et 500 porte-containers par jour, qui sont des bateaux immenses qui ne peuvent pas dévier de leur trajectoire et qui ne peuvent pas s'arrêter si jamais il y a des embarcations devant elles.
Arnaud, vous me parlez de choses qui sont terribles à vivre. Je me dis, vous êtes extrêmement courageux.
Alors ça dépend évidemment des points de vue. J'ai appris ce que c'était que le courage, parce que j'ai appris ce que c'était que la peur en faisant du sauvetage en mer. Et j'ai appris que le courage, c'est une ressource qu'on est tous capables de mobiliser face à la peur. C'est même d'ailleurs la seule ressource qui soit à notre disposition dans ces situations-là. Donc effectivement, j'ai appris à être courageux. J'ai appris que le courage, il fallait le conquérir tous les jours. C'est-à-dire qu'on n'était pas courage pour toujours. Chaque jour, on peut être confronté à des situations qui nous dépassent et où on n'a pas forcément la volonté, l'énergie d'être courageux. Quand on fait du sauvetage, évidemment, c'est non négociable. Hein. On ne peut pas faire défaut aux gens qu'on sauve et puis on ne peut pas faire défaut à son équipage. Chaque membre à bord compte. Donc ça, c'est un point important. Et puis j'ai découvert aussi ce que pouvait faire un groupe de personnes motivées et courageuses. On peut vraiment faire la différence.
Là, vous avez parlé de groupe.
Oui, le groupe, c'est absolument vital sur un bateau de sauvetage comme ça. Il faut vraiment pouvoir compter sur les uns sur les autres. Et c'est aussi un facteur de réduction du stress post-traumatique préventif par anticipation. Il y a trois piliers essentiels. Un, c'est le collectif. Il faut vraiment donc pouvoir s'épauler les uns les autres. Le deuxième, c'est la formation. Il faut absolument être prêt pour pouvoir agir en conséquence, à savoir qu'on sera capable de faire les choses une fois qu'on sera déployé. Et puis le troisième, c'est le sens de la mission. À partir du moment où vous êtes capable de donner du sens à votre mission, vous vous retrouvez avec ces trois piliers qui sont les trois piliers les plus importants pour vous protéger contre le stress post-traumatique.
Donc là, vous parlez d'une fraternité, mais c'est une fraternité que vous enseignez également, donc, puisque vous êtes enseignant, mais vous enseignez donc, au sein d'institutions étatiques. Est-ce qu'il y a un paradoxe ?
Non, pas du tout. Sachant que cette fraternité, c'est quand même quelque chose qui est très constant sur les équipages de marins. Donc ça, c'est vraiment une valeur de la vie en mer. À partir du moment où vous êtes sur un bateau, forcément, vous dépendrez les uns des autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est ancré. Là où moi, je peux faire la différence, d'une part, c'est vraiment sur la formation. Préparer les équipages et puis les aider aussi à affiner le rapport qu'ils ont à la mission, donc donner du sens à cette mission, sachant que par définition en Manche-Mer du Nord, une grosse différence entre les équipages qui sont déployés et puis ceux des ONG, c'est que les gens n'ont pas forcément choisi la mission. Pour certains d'entre eux, elle est imposée par simplement leur présence à ce moment-là, alors que les ONG, les gens choisissent la mission et ils savent pourquoi ils s'engagent. Tout l'objectif de la formation, c'est de mettre en évidence tous les facteurs de risque et d'essayer de faire en sorte que les idées préconçues et les peurs, qui sont souvent des fantasmes, ne prennent plus toute la place dans leurs analyses, mais qu'ils soient vraiment capables d'analyser le risque pour ce qu'ils sont, d'ailleurs vraiment identifier ces vrais facteurs de risque qui vont poser des problèmes au moment du sauvetage, de façon à ce qu'on puisse se focaliser sur le caractère opérationnel et efficace d'un sauvetage, quelle que soit la situation et quel que soit le nombre de personnes à sauver.
Je vous remercie, ce sera le mot de la fin.
Auditrice, auditeur, à bientôt pour une prochaine émission donc sur Radio B.